1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Are you drinking, bro?
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je passerai à l'antenne.
C'est cool, ça va arriver, les voisins.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 99.9 en compagnie des décadrés.
Ouais,
quelle forme, punaise, il n'y a que Benjamin qui réagit, on n'a même pas Antoine, on ne veut pas, il ne veut pas nous faire entendre le son de sa voix. On dirait qu'il est de bonne humeur, mais en même temps avec un peu de...
Ouais.
Comment vas-tu?
Je me contiens.
On entend le son de son sourire, ça me va très bien.
Non, mais ça
nous suffit.
Ça va très bien les gars, merci. Ça va très bien.
Bah très bien, bah d'accord. Waouh, on sent qu'on a l'envie d'être là aujourd'hui, hein, c'est quand même pas mal.
Mais c'est que de l'amour, en plus on est à Halloween.
C'est vrai, c'est
oui,
Halloween.
C'est Halloween aujourd'hui.
C'est peut-être pour ça qu'on manque d'entrain, un peu effrayé. C'est la fête des morts.
Ouais, c'est vrai, la fête des morts.
C'est vrai.
C'est triste la fête des morts. Hein.
Ah, ça va pas être joyeux.
Et pourtant, on
va
ramasser
Mexique,
des bonbons.
Au Mexique, ça peut être
joyeux. Au Mexique, ouais, c'est une fête très colorée. Très, très colorée, ouais.
Bah, en plus, on mange sur les tombes.
Exactement, c'est vrai en plus.
Bah nous aussi, c'est joyeux. Les petits enfants qui vont chercher les bonbons dans la rue.
Ah, que de souvenirs.
Ah, rappelez-vous ces temps anciens où nous partions à la conquête des portes pour aller chercher des bonbons.
Ouais, mais on n'est peut-être pas là pour parler de conquête de bonbons.
Oui, mais
plus.
En fait, on essaye de meubler vu que Benjamin, malheureusement, pour Halloween, ne nous a même pas prévu de news.
Et oui, chers auditeurs,
on en est triste.
Voilà, ouais, Benjamin n'a pas prévu de news.
Je n'ai pas prévu de news, mais j'ai prévu une importante chronique avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Beaucoup de frayeur.
Alors préparez-vous à quelque chose de très très long.
Et ben en fait,
grosse chronique.
Et ben en fait, non, ça va pas être si long que ça.
Mais
ça,
non,
c'est
non,
parce
non.
que j'ai prévu un petit trailer. Après, c'est très rigolo.
Moi j'ai confiance. Moi j'ai totalement confiance.
C'est parce que tu sais de quoi je vais parler.
Oui, je sais de quoi.
Et je vais parler de.
Je ne vais pas le dire.
Ah, Moontrap.
Voilà, pour préserver la surprise.
Donc je vais parler de Moontrap. Attention, la synopsis est celle-ci. Lors d'une émission de routine, deux astronautes américains découvrent un étrange cocon dans l'épave d'un vaisseau spatial d'origine inconnue, ainsi que le corps d'un humanoïde qui serait mort depuis 14 000 ans. Ils ramènent leur découverte sur Terre et sont renvoyés sur la Lune où la NASA espère découvrir l'explication de ces mystères. Voilà. Alors, attention,
merci,
c'est
très
parti.
Très succinctement.
Oui, c'est parti. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. C'est ce qu'on pouvait lire sur l'affiche d'Alien, le 8e passager de Ridley Scott, il y a bien longtemps. Ce slogan faisait référence à la terreur que les spectateurs et l'équipage du Nostromo allaient vivre dans un vaisseau spatial coupé de tout, avançant dans le vide intersidéral, où les sons se meurent dans un profond silence. On pourrait accoler ce même slogan au film de Robert Dyke, Moontrap, ressorti en DVD chez les éditions Rimini le mardi 18 octobre. Le film de 1989 mérite toutefois ce slogan pardon, pour d'autres raisons. En effet, chez vous, personne ne vous entendra crier de peur, car le film n'est pas terrifiant, encore moins spectaculaire. Ce long métrage est une série Z absolue, entre le navet de compétition et le nanar de petite main. Un film qui vous fait rire par dépit, quoi.
Je te trouve bien dur quand même.
Ça, hein. C'est le nanar. C'était la définition. C'est un film qui vous fait rire par
dépit. Oui, c'est vrai.
D'accord.
Mais c'est vrai que le nanar de petite main. Waouh, c'est... Vas-y, le navet de compétition, c'est. Waouh,
ouais, c'est
vas-y.
Ça. Change alors... pas de main, je sens que ça vient. Excusez-moi.
Le synopsis aussi proche du remake de 2001 Odyssée de l'espace que de celui d'Alien ne retranscrit pas assez bien l'ambiance du film. Alors, tâchons de le faire. Nous-mêmes. Bruce Campbell, le H de la saga cinématographique et télévisuelle Evil Dead, et Ray Tanner, un cosmonaute.
Ray comment ?
Ray Tanner.
Ray Tanner ?
Ouais.
J'ai compris Ray Tamer.
Oh, ça aurait pu être plus
rigolo. Ouais, non, mais.
Ray Tamer, tu vois ça.
Ray Tamer, oui.
Ray Tanner, un cosmonaute à la blague facile, aussi brave qu'un cowboy et probablement le seul acteur à avoir compris qu'il ne jouait pas dans un grand film. Walter Koenig. Koenig, et Jason Grant, le héros du film, celui qui parle trop, qui devine tout trop vite, qui se tape la fille dans une tente de survie gonflable sur la Lune après avoir perdu ses amis et l'espoir de survivre, il faut le dire. Et c'est enfin donc le gars trop sérieux, trop grave, à tel point qu'on peut se demander si l'acteur ne tentait pas désespérément d'obtenir un prix. Non, on va pas parler d'Oscar. Ou du moins de se décoller la peau de son rôle donc dans l'univers Star Trek. C'est Pavel Tchekhov.
Oui, oui, c'est Tchekhov.
Voilà. Dans l'ancien Pavel Tchekhov ouais. Avant les reboots initiés par Abrams. Et on a Leif Lombardi, qui est Mera, une extraterrestre humanoïde censée prévenir les hommes du danger. Elle ne parle pas anglais, ne sait pas ce qu'est embrasser, mais elle saura se déshabiller.
Ah,
ah oh. Pour faire la bête à dodo. J'aurais mon
la bête à dodo.
On fait la bête à dodo.
On a eu la même, on a eu le même gros point d'interrogation avec Ange là.
Avec Koenig. Dodo. Oui, c'est-à-dire elle couchera avec Koenig.
D'accord, ok. Bah oui. Bah, en même temps, si tu dis pas les choses clairement.
Vu qu'on est dans le nanar, autant voir.
Oui, bête à dodo. Bah bête à dodo, moi ça me va.
Attendez, le défilé n'est pas fini.
Ah bah.
Il y a des robots tueurs inspirés, beaucoup trop d'ailleurs.
Aspirateur.
Non,
mais j'ai vraiment compris ça.
Robocop 2 et la guerre des mondes.
Excusez-moi.
Autre chose. On a des effets spéciaux que n'aurait probablement pas utilisé Ed Wood. Ouais, même lui. Un scénario poubelle et incohérent fait au shaker qui aurait été refusé par la Warner, même si elle a accepté Suicide Squad, c'est pour vous dire. Non, tu l'as pas fait.
J'ai pas de jingle. Ça, c'est trop facile quand même.
Bon. Un certain David Fincher, grand cinéaste, a dit « Certaines personnes disent qu'il y a des millions de façons de filmer une scène. Je ne pense pas. Peut-être deux ou trois façons. Toutes les autres sont fausses. » C'était David Fincher. Et alors, si Fincher a raison, c'est dommageable pour Robert Dyke, donc le réalisateur, responsable, qui est aussi un des responsables des miniatures sur Evil Dead 2.
D'accord.
Voilà. Donc, qui semble
c'est toujours bon à prendre comme info.
Bien sûr. Et ben, pour ce film, il semble avoir fait tous les mauvais choix. Bah ouais, parce que la réalisation, elle est pauvre, médiocre. La qualité d'image est problématique. Ah ouais, on dirait que le film a été tourné en cassette vidéo, donc ça peut être intéressant hein, si c'est bien exploité.
Ouais.
Sauf que là, on est censé être dans un film spectaculaire et en fait, on dirait que c'est surtout pas un choix, tu vois. C'est
d'accord.
Une économie de moyens.
Ouais.
Pas de chance.
Il y a eu un budget conséquent pour ce film ou...
Non, je pense pas. Non. 3 peut-être pour payer les stars.
30 euros.
Mais on peut compter sur quelques éclairs de génie. Je pense à la tête de Bruce Campbell sur. Avec le visage arraché qui a été mis sur un robot, je trouve ça formidable.
Pas mal.
Ouais. Et alors par contre, on a une musique pas possible. Avec un score cliché, mais alors cliché, digne d'un navet ou nanar. Et ça a été composé par Joseph Loduca, qui est le compositeur de la trilogie Evil Dead.
Ah ouais ?
Comment il a pu faire ça ? Vous l'écouterez dans la bande-annonce, ça pique. Et attention, spoilers ! On a une ouverture, une scène d'ouverture finale sur une possible suite qu'on ne voudrait pas voir, même gratuitement. Et dont l'idée n'a hélas pas été oubliée par l'équipe créative, puisqu'une suite intitulée Moontrap Target Earth devrait débarquer sur les écrans cette année.
Ah mince
alors. Je vous jure.
Mais combien de temps après?
Bah là du coup c'est cette année en 2016, et le premier film c'était en 1989.
Oh mon dieu.
Ah ouais non mais le mec n'a rien lâché.
Non mais c'est bien de croire en ses rêves. Hein. Mais le film, enfin pour toi c'est un nanar ou c'est un navet?
Ça ressemble plus, enfin c'est plus proche du navet que du nanar.
D'accord.
Et du coup, vous obtenez à la fin Moontrap, un film à voir le samedi soir entre potes autour d'une pizza ou autre porn food. Et je vous conseille de boire un coup aussi. Ça sera mieux. Comme l'a déclaré Bruce Campbell dans une interview, donc qui est en ligne sur internet, vous tapez Moontrap interview Bruce Campbell sur YouTube. Moontrap est un film de science-fiction à bas budget, cool et funky. Bon. Et nous vous conseillons franchement d'en rester là, c'est-à-dire au cool. Au funky, au bas budget. De ne pas y chercher plus que ça. Parce que si vous comptez regarder un film de science-fiction bien fabriqué, bien écrit, bien interprété, bon, soit un bon film, vous voyez, ce que vous voyez, ce que vous allez au cinéma souvent, je sais pas, Interstellar ou autre,
ah, par exemple, bon,
bah, détournez-vous de Moontrap le plus vite possible, que ce soit de sa version cinéma, que de sa version longue qui est sur le DVD. Ouais, la version longue de 3 minutes de plus.
Wow.
Avec une bataille spatiale en plus. T'as ridiculement trop. Et maintenant. La bande-annonce. Ship composition unknown. Probable origin Earth's moon. The crew of the space shuttle Camelot has just brought back a little present from the moon. Organic remains human. He's 14,000 years old. Tissue reconstruction. And now it is free again. To seek. There's something in the corridor. To hunt. Something huge. Keep it together. Keep it together. To kill. We want to establish contact. Caesar, give us a sign. Get the son of a... Out of the darkness. What the hell have we got here, Jason? It called him to set it free. A base. And we're being invited in. Argo team, do you read me? Please respond. She's alive. Something
They blew me out of orbit. I'm going down.
Seems like they never learned.
In outer space, on the outer limits, one man from our time, one woman from another.
We're in their ship. That's what we are. Spare parts.
Together, they must face the ultimate challenge. Moontrap. The wait is over. Starring Star Trek's Walter Koenig and Evil Dead's Bruce Campbell.
Moontrap. Donc, maintenant, nous allons enchaîner avec une chronique sur un docteur. Un docteur très particulier, docteur très étrange.
Oui, un docteur très étrange, exact. Et ben oui, parce que ça fait déjà depuis presque une semaine que le fameux Doctor Strange est sorti dans nos salles obscures. Et un film que personnellement j'attendais depuis un long moment. L'arrivée d'un film mystique, magique, et pourquoi pas un renouveau du héros Marvel. Mais avant de vous donner mon avis sur le film, on va faire d'abord un petit résumé. Alors, Stephen Strange, qui est interprété par Benedict Cumberbatch, qui joue par exemple, notamment connu pour son rôle de Sherlock, hein, la série, avec, oui, avec le professeur Watson, qui est interprété par...
Smaug
aussi. Donc voilà, donc si vous ne le connaissez pas, allez voir du côté de Smaug ou de Sherlock, où il tient vraiment des rôles absolument magnifiques, c'est un très très grand acteur. Et du coup, Stephen Strange, c'est un brillant neurochirurgien dont le talent n'a d'égal que son égoïsme et son arrogance. Et suite à un accident de voiture, celui-ci se retrouve blessé aux mains et souffre de lésions si importantes qui l'empêcheront d'exercer son métier de docteur. Alors s'ensuit alors d'une descente vers la dépression, la rancœur, la solitude. La médecine ne pouvant l'aider, Strange entend parler de l'ancien, un guérisseur qui vivrait dans les montagnes de l'Himalaya, et rêvant de redevenir l'homme qu'il était, le docteur prend la route et parvient à rencontrer ce dit ancien. Il se retrouve alors confronté à l'existence de la magie avec un très grand M et demande à l'ancien de lui enseigner cet art mystique. Et Strange comprend alors la rude tâche qui l'attendra s'il pousse plus loin ses études mystiques au lieu de se contenter d'apprendre à dominer son propre corps pour guérir de ses lésions, sachant qu'il ne peut pas faire les deux. Mais même la magie la plus extraordinaire cache sa part d'ombre, ce que Strange ne va pas tarder à découvrir. Alors on retrouve à la réalisation du film un certain Scott Derrickson. Alors je vous laisse un petit temps de prise. Voilà, Sinister, Ange, Scott Derrickson.
Le jour où la Terre s'arrêta.
Le jour où la Terre s'arrêta, Benjamin de Point. Un dernier. L'exorcisme d'Emily Rose.
Ah, c'est bien, c'est que sur les trois, j'en ai vu qu'un. Le jour où la Terre s'arrêta.
Ah bah,
remake, il faut le dire.
Ah, le remake, ouais. C'est un remake à la base, oui. Ouais. Mais Sinister paye pas de mine, mais il est très sympa. Alors, Scott Derrickson, qui à défaut de nous laisser une empreinte visuelle marquante, profite quand même d'une flopée d'effets spéciaux assez jouissifs. Distorsion de l'espace, effet miroir, démultiplication d'effets de perspective. On se croirait dans Inception avec le côté pop fun en plus. Benedict Cumberbatch, lui, campe à la perfection son rôle de docteur, même si, bon, on avouera que la construction et les caractéristiques du personnage ressemblent énormément à celles d'un héros déjà bien présent dans le Marvel Cinematic Universe, Tony Stark, je vous le mets dans le mille. Effets visuels explosifs, couleurs hallucinogènes sont au rendez-vous, humour Made in Marvel sur fond de personnages cyniques également, et c'est bien là le problème en fait, parce que Doctor Strange aurait pu être encore mieux que ce qu'il est. C'était même l'occasion de donner un nouveau souffle au super-héros Marvel. L'arrivée d'un nouveau personnage peu connu du grand public aurait pu servir à surprendre ce même public en lui proposant un nouveau super-héros aux nouvelles capacités et capable de briser le moule de construction des super-héros Marvel. Malheureusement, malgré le talent de son interprète, Doctor Strange reste un film sans surprise. Peut-être la faute à un cahier des charges trop prédéterminé ou du PDG des studios Marvel, Kevin Feige, qui semble aimer garder une main très pesante sur la production des films. En tout cas, Doctor Strange n'a pas à rougir, on est tout de même très loin de la purge qu'est X-Men Apocalypse ou encore... Suicide Squad, t'en parlais tout à l'heure, Benjamin.
N'en parlons plus.
Voilà. Et à défaut de proposer une histoire, une construction de personnages novatrice, le film a au moins réussi le défi de me divertir et de m'en mettre plein les yeux. Même si au final, j'aurais aimé avoir plus de visu et de contemplation sur le monde mystique du Doctor Strange.
Thank you.
Et donc vous écoutez bien les décadrés sur PFM 99.9. Et c'était le main theme de Doctor Strange.
Alors
je pense.
C'est End Credits.
Les credits
The
fin.
Master of Mystic.
Donc composé par Michael Giacchino, qui est un très très grand et bon compositeur, qui a bossé sur là-haut. Film là-haut.
Lost, la série.
Lost, Fringe, Super 8, les Star Trek, Star Trek Into Darkness, le prochain Rogue One en remplacement de Alexandre.
Dumas.
Non. Non, Desplat, voilà.
Ouais, on y est presque.
On y était presque. Et voilà, très grand compo. C'était chouette d'ailleurs, c'est une belle musique.
C'est une très très belle musique. Ouais.
Ça change.
J'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien.
Ouais, mais ça, c'est une musique qui colle bien l'univers du Docteur, justement. Ce truc un peu mystique, un peu hallucinogène, on plane un peu.
Mystique,
ouais.
Parce que c'est un thème qu'on peut retenir, ça.
Oui, bah, c'est un thème, mais moi, personnellement, c'est l'une des musiques du film qui m'a le plus marqué, en fait. Hein. C'est la musique de fin, et je trouve qu'au final, la musique clôture assez bien, la fin du film. Enfin, je peux pas en dire trop, parce que sinon, ce serait spoiler, et je trouve pas ça cool de spoiler. Mais je trouve qu'elle colle bien avec l'univers, avec cette idée de renaissance du personnage, au final, qui s'est enfin trouvé et qui a trouvé sa voie.
D'accord. Alors moi, j'avais juste une question à poser, en fait. C'est par rapport à l'histoire de magie qu'il y a tout autour de Strange, qui est que, est-ce qu'ils ont réussi à bien retranscrire cette magie parce que, en fait, depuis Harry Potter, niveau magie, et à part la série The Magician qui arrive sur Netflix, là, il n'y a pas eu grand chose de fait à
Alors,
ce niveau-là.
Dans le cadre de Strange, en fait, c'est quelque chose d'assez particulier parce que la magie, en fait.
C'est le cosmos.
Voilà, c'est le cosmos en quelque
c'est
sorte.
C'est toutes les réalités qui
c'est,
se
voilà,
forment,
c'est toutes les réalités, les différentes dimensions qui peuplent l'univers, notre monde. On passe du microcosme au macrocosme. On passe dans les galaxies. Il y a les miroirs aussi.
Ah ouais.
Les effets miroirs, c'est très. Et en fait, on est vraiment dans une espèce de manipulation de la réalité, de l'espace-temps, en fait, de la perception.
D'ailleurs, j'ai une question sur ça, c'est que la BD, elle est hyper psychédélique, je vous la conseille. Ouais. Je veux dire, la BD, c'est un régal des yeux, et on sentait que, bon, bah voilà, c'était à l'époque où il y avait une certaine consommation de drogue. Et du coup, c'était plein de couleurs, de formes cinglées. Voilà, c'était psychédélique. Est-ce que le film reprend vraiment ça? Parce que quand j'ai vu les images de la bande-annonce, c'est Inception. Non, mais on va pas se mentir, c'est Inception.
Ah, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, honnêtement, le film, moi, j'ai été assez déçu par ça. Parce que même si c'est très bien géré, les effets spéciaux sont très bien gérés, je trouve qu'il y a trop peu. Je trouve qu'il y a trop peu, justement, de couleurs hallucinogènes. L'idée du trip, parce que moi je pensais,
ça,
moi, je pensais
trip, hein.
Moi je pensais me taper un gros trip visuel, hein, ouais. Et en fait effectivement il y en a peu, mais ils sont plutôt bien gérés, mais on aurait voulu en avoir plus, moi j'aurais voulu en avoir plus, après vous verrez en fait il y a certains moments où juste vous êtes là, vous êtes genre, wow, c'est trop beau, c'est trop bien, et je pense qu'avec une bonne 3D il y a moyen, une bonne 3D en IMAX aussi.
Tu l'as vu en 2D?
Oui, je l'ai vu en 2D moi. Mais je pense qu'avec une bonne 3D et l'IMAX, je pense que ça doit être une bonne petite expérience.
J'ai lu que la 3D était plutôt pas mal pour un Marvel.
Ouais.
Ça a l'air, hein. Rien que sur la com qu'ils ont fait sur internet, moi je voyais, des fois je me baladais sur Facebook, je voyais des trucs, des bandes annonces, puis d'un coup je voyais Matt Mikkelsen qui apparaissait en plein milieu de l'écran, je fais ouais, ça donne envie d'aller voir le film,
mais
en même temps la 3D elle doit être pas mal,
mais
si gère comme ça.
Le film est bon, hein, mais c'est juste qu'on est dans la même construction Marvel, on va pas se cacher, ça c'est dommage.
C'est un système.
C'est un système, voilà. Alors comme tu disais, Benjamin, tout à l'heure, quand on était en écoute, justement on est dans la phase 3 du Marvel Cinematic Universe, il aurait pu y avoir un certain changement, et c'est toujours pas là.
Ils
et
ont
le
une bonne
film
recette.
Aurait pu être beaucoup plus contemplatif, je
c'est
trouve,
ça, ouais,
sur
je
les phases justement un peu psychées.
Il va y avoir de toute façon le Spider-Man Upcoming prochainement, Gardien de la Galaxie 2, pardon, et Power Girl, je sais pas. Captain Marvel. Donc il va arriver, et sinon il y a encore les séries Netflix sur lesquelles vous pouvez vous pencher.
Oui. Qui sont très bien.
Et qui sont magnifiques. Et du coup, on va passer à notre ami Ange.
Oui.
Du coup, Ange, on va te laisser présenter le film parce que moi je ne le connais pas.
Il y en a aucun de vous deux qui
connaît. Il n'y en a aucun de nous qui le connaît, du coup, tu vas nous faire découvrir.
D'après ce que j'ai compris.
Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi 31 octobre pour la diffusion de notre émission. Et qui dit 31 octobre dit forcément
Halloween.
Bien, comme on l'a dit tout à l'heure, vous l'aurez forcément compris.
Ah, grand gros. Excusez-nous, on fait les bruitages en même temps.
Faites-les moins fort. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous parler d'un film qui ne fait pas spécialement peur et qui n'est pas un film d'horreur. Hell and Back. Donc. Enfer et retour ou revient, comme vous préférez dans traduction française. Donc il s'agit d'un film de 2015 réalisé par Tom Janas, qui a réalisé la série Avec Bob et David. Donc Bob, c'est le Bob de Better Call Saul, l'acteur.
Odenkirk.
With Bob et David.
Ouais, ouais. C'est une série de sketch
que je n'ai jamais vue encore. Excellent. Que
c'est très. Ouais, je me rappelle, c'est vraiment très drôle.
Oui, voilà. Et le deuxième, David, c'est.
David Cross.
Ouais, c'est. Ouais. Il est dans FBI du foot très spécial.
Et Arrested Development aussi.
Oui, voilà. Puis aussi dans Les Men in Black. Exactement. Il joue à chaque fois un rôle différent dans Les Men in Black.
Et il fait la voix de Gru dans Kung Fu Panda.
Exact. Ah.
Donc, et le deuxième réalisateur, Ross Schumann, qui a participé à la création de Robot Chicken Star Wars 3.
Waouh, alors ça, je vous conseille Robot Chicken. C'est pas cher. Allez au furet, prenez-le, c'est pas cher.
Ah non, puis c'est pas cher et drôlerie. Et puis ça fait du bien.
Oh. Donc, déjà, ces deux réalisateurs, bien sûr, ça annonce un humour tout à fait singulier et sans retenue. En clair, c'est gras, ça ne vole pas bien haut, ça ne fait pas dans la dentelle et ça peut facilement rebuter les plus sages d'entre nous. Donc, c'est un film réalisé en stop motion avec de très bons effets spéciaux et qui tient la route visuellement, il faut le souligner, ce qui en fait un très bon film, même si vous n'accrochez pas à l'histoire, qui d'ailleurs a déplu à un grand nombre d'Américains. Il s'est fait, d'après ce que j'ai pu comprendre sur internet, il s'est fait totalement dégommer par la critique en fait.
Hein.
Il
a la été défoncé. Américaine...
Par la critique américaine, il s'est fait défoncer. Par contre,
d'accord,
en France, il était plutôt bien reçu. Ah, parce que même c'est... s'il a pas, on n'en a pas forcément entendu
ça
parler.
Ça dit du mal des Américains ?
Non, c'est juste. Non, je vais vous expliquer après. En fait, c'est plus par rapport à l'histoire, je pense. J'ai pas tout compris exactement pourquoi il avait déplu, mais c'est plus, je pense, au niveau de l'histoire, des personnages, plutôt que ce qui se dit. Il n'y a rien qui est autour de l'Amérique, en fait, là-dedans. Il n'y a aucune critique de la société américaine. C'est plus religieux.
D'accord.
Donc, d'ailleurs, qu'en est-il de l'histoire, justement ? Eh bien, ça ne vole pas bien haut, comme je le disais. Donc, trois amis travaillent dans une fête foraine. Celle-ci est sur le déclin et l'un d'eux trouve un grimoire avec à l'intérieur l'image du démon qui pleure de vraies larmes. Donc, vous imaginez le bouquin, il y a l'image du démon, puis il y a des larmes qui coulent, mais des vraies. Donc, ils pensent tous l'utiliser pour se faire du fric, mais ils font un pacte de sang débile impliquant que l'un d'eux donne immédiatement une pastille de menthe, ce qu'il ne fait pas, à l'autre. Sinon, il serait jeté aux enfers, ce qui arrive aussitôt. C'est ainsi que les deux compagnons restants foncent en enfer, le sauver, et c'est le début de leurs aventures.
Ouais, tous.
Ouais, excusez-moi. Donc je vous avais prévenu que l'histoire n'était vraiment pas tirée par les cheveux. En fait, au final, c'est vraiment une histoire débile. Hein. Une histoire de pastille de menthe, et c'est pour ça qu'il se fait jeter aux enfers, parce qu'il n'a pas respecté son pacte. Voilà.
Pourquoi ils ne l'ont pas appelé le contrat de Vichy, le film ?
Ben... parce qu'en fait, il leur fallait juste une raison pour l'envoyer là-bas. Mais c'était une blague de merde et j'ai pas mis le
ah,
jingle,
c'est pas grave.
Je le mettrai parce que j'étais trop concentré sur mon texte, tu vois. Je peux pas tout gérer en même temps, j'ai une souris dans la main, un portable dans l'autre, un texte devant les yeux. Ça a été difficile. Donc on découvre dans cet univers un enfer à la dérive, telle leur fête foraine, avec le diable qui ne sait pas gérer son entreprise, qui part en faillite petit à petit, et qui exige un sacrifice humain pour se remettre sur les rails. Et ça tombe bien vu que... un humain a fait un pacte de sang débile et se retrouve en enfer. Ah
ah. Ah, excuse-nous.
Mais je vois que vous suivez bien, hein, c'est bien.
Mais non, mais
c'est
sérieux,
en plus. Super sérieux.
Donc, mais l'histoire, dans le fond, n'est pas le plus important dans tout cela, comme je vous le disais. Il s'agit purement et simplement d'une comédie sans prise de tête, avec un humour lourd et gras qui nous rappelle très largement celui de South Park ou de Robot Chicken.
Oh.
Pratiquement tout tourne très exactement autour du sexe, bien que l'amour a son importance, même pour le diable qui est amoureux d'un ange très sexy. Et je ne parle pas de moi.
Parce que le diable s'habille en Prada.
Voilà, là je pourrais le mettre. Voilà. Donc bien que l'humour de ce film ne soit pas d'un très grand niveau, c'est ce qui fait le charme de ce film et qui fait que j'ai voulu continuer de le regarder. Cela tenait la route tout simplement et correspondait parfaitement à l'univers qu'imposait le film. Jamais il n'y a d'écart à ce niveau-là, en fait on ne part jamais. Sincèrement, même s'il y a des moments l'humour peut paraître pour certains très lourd et trop répétitif à des trucs dangereux, mais en fait c'est magnifiquement bien dosé pour que ça passe et que ça devienne pas trop chiant.
Moi je tiens à défendre Robot Chicken et M. South Park. Je trouve que Robot Chicken ça peut être hyper subtil, hyper fin dans son humour, en plus parfois très référencé. Et puis South Park, voilà.
Bah, South Park,
moi je défendrai South Park.
South Park n'est pas.
C'est pas toujours gras.
C'est pas subtil non plus. Hein, South
moi,
Park,
South Park, j'ai toujours eu du mal à regarder.
Hein, South Park, ça
peut être très radical quand même.
South Park, c'est la grosse des. C'est la débandade, c'est la démesure. On fait gros et on fait gras et on s'en fout en
mais
fait.
C'est pas toujours gras quand même.
Bah, demande à Cartman.
Bah,
ah,
moi,
ouais,
moi,
mais
je,
forcément,
enfin,
c'est demande
à Cartman. Tu vois. Mais c'est dans l'histoire justement de ce film, on retrouve un peu l'histoire du film avec c'est Kenny qui je parle du qui film de South Park qui se retrouve en enfer et qui essaie d'en sortir. C'est à peu près le même principe, sauf que je crois dans South Park il y a personne qui vient le chercher.
Non, mais en fait lui c'est une espèce de messager, il doit faire intermédiaire pour empêcher une guerre entre le Canada et l'Amérique.
Mais il y a un peu le même
à cause de Terrence Philippe.
À cause des films de Terrence Philippe.
Il y a un peu le même principe, celui qui n'a pas donné sa pastille de Vichy, je vais prendre mon truc. Ce qui se retrouve en enfer va aider un peu en fait le diable à gérer son entreprise, sauf que il va se faire quand même sacrifier à la il dit qu'il va quand même se faire sacrifier quoi. Donc c'est un peu pareil parce qu'au final ils s'entendent super bien, ça devient des super potes, mais voilà.
Et ça dure combien de temps?
Ça dure 1h25.
OK.
Très précisément. Donc voilà, donc l'humour est parfaitement aidé par la création des personnages en pattes qui est au même niveau que celui de Wallace et Gromit, même bien plus que ça au niveau des détails, et peut-être même au même niveau que Kubo, qui est sorti récemment, que je n'ai pas vu mais que je voulais absolument voir. Donc mon personnage préféré esthétiquement, sincèrement, dans ce film, c'est le diable, qui a un corps à la fois effrayant, bodybuildé, charismatique et totalement clownesque, à mon goût, qui le rend totalement atypique et attachant. On ne le voit pas comme une bête cruelle sans remords, mais plutôt comme quelqu'un d'attachant qui a des problèmes et qui n'est entouré que d'une équipe de bras cassés.
C'est marrant, ça ressemble vachement à la description du diable dans ce Spark dans le film.
Bah en fait, là, dedans, des fois, tu le vois totalement bodybuildé et au bout d'un moment, il peut changer d'apparence et devenir tout fin et tout frêle et tout timide.
Okay.
Donc voilà, donc je vous invite à voir ce film si ce n'est déjà fait. Hell and Back, avec les voix de Nick Swartzen, que je ne connais pas trop, avec Mila Kunis et Bob Odenkirk qui fait la voix du diable.
Ah, ça doit être magnifique.
Ah, c'est pas mal, il le fait bien. Et je vous laisse avec la musique Be a Woman par The Sonics.
Et on vous dit au revoir.
Et oui, on va tout à fait. Dire au revoir.
À la semaine prochaine.
Donc c'est l'une des musiques de ce film qui est parfaitement superbe. À la semaine prochaine. Makes as much as I can.